soleil intense. En arrivant cet été à Kerbihan, Maud se souvenait du projet qu'elle avait arrêté un an plus tôt, en août 2012, alors qu'elle quittait la ville. Elle s'était dit qu'une fois de retour sur les lieux, elle trouverait une solution pour impérativement réussir à faire de la voile avec Thibaut, pour qu'ils s'occupent ensemble, pour qu'ils ne risquent pas de s'ennuyer. Mais elle retrouvait l'endroit et ne découvrait pas le moindre début de piste en ce sens. Rien n'était envisageable. Thibaut n'était pas rassuré, les bateaux proposés à la location étaient trop instables. Elle abandonna l'idée et changea, sans l'ombre d'un état d'âme, puisqu'elle n'avait pas le choix, son fusil d'épaule. Chaque matin, au lieu d'embarquer Thibaut sur un quelconque dériveur, elle lui proposait, avec enthousiasme, la balade du jour. Ce n'était certes pas bien différent des autres années, mais à défaut d'innovation, l'on garde les méthodes ayant malgré tout fait leurs preuves. « Je suis pas bien compliquée, vois-tu, lui disait-elle lorsqu'ils s'interrogeaient sur leur destination du jour. Ce qui me plairait en bateau, ce serait surtout de contempler la mer. Alors, si cela ne t'ennuie pas, on peut marcher près de l'eau, faire la même balade. » Celle du chemin des douaniers. Le paysage est chaque jour différent. La lumière, les vagues, l'odeur, le vent, le ressac sur le sable, la danse des bouées, le mouvement est sans fin. Allons-y, on ne navigue pas, mais au fond, c'est tout comme. Cette promenade sur le chemin des douaniers, derrière la caserne des pompiers, était en effet celle qu'ils entreprenaient le plus souvent. Maud écoutait les possédés de Dostoïevski avec son MP3 glissé dans son sac. Thibaut marchait dans le silence. La pause déjeuner avait son importance. Pour alimenter la conversation, Maud utilisait les notes qu'elle avait prises depuis la veille sur « le temps qui passe ». Il lui plaisait ainsi de retrouver Thibaut par la parole. Une fois les sujets épuisés, il jouait aux échecs. Il ne s'agissait pas de manquer cette étape de la mi-journée. Un jour, où tous deux s'étaient mal compris, Thibaut s'était fâché. Il avait cru que Maud négligeait les contraintes d'heure d'ouverture du restaurant. Ils marchaient tous deux sous une chaleur caniculaire. Thibaut était certain qu'ils arriveraient trop tard, par la faute de Maud. À coup sûr, le service serait terminé. Le sable était lourd. Sur les sentiers de la presqu'île de Quiberon, au-dessus des falaises de la côte sauvage, Maud était épuisée. Il lui semblait que la balade n'en finirait jamais. Elle n'avait perçu le mécontentement de Thibaut que lorsqu'ils avaient entamé le chemin du retour. Elle avançait, il était derrière elle, il prenait du retard, il boudait, puisque Maud n'avait pas pensé à l'heure, il refuserait de déjeuner. Elle avait fini par comprendre la cause de sa mauvaise humeur. Elle essayait d'accélérer, en dépit de sa fatigue et du soleil intense à cette heure de la journée. Ils se trompaient, se pensait-elle. Ils arriveraient bien assez tôt. Elle tentait de rejoindre le restaurant au plus vite, tandis que Thibaut se laissait distancer. L'accrochage fut douloureux. Tous les ans, pour les mêmes raisons, le même malentendu intervient. Maud se promit, une fois de plus, de ne plus oublier la question des heures qui provoquait immanquablement la colère de son mari. Elle espérait qu'elle parviendrait à l'avenir à penser aux horaires afin d'éviter ces absurdes accrochages. Maud avait abandonné ses projets voiliers. Le couple marchait le matin, ensuite il déjeunait, puis Maud retravaillait ses textes dans les autobus. Thibaut, dans l'appartement, commençait à songer au repas du soir pour les garçons. Dès le début du séjour, la canicule s'était imposée et ils avaient compris, quelques jours avant le retour de Thibaut à Paris, que les promenades sous une écrasante chaleur n'étaient peut-être pas le plus judicieux des passe-temps. Ils adoptèrent alors l'organisation de type espagnol, une terminologie qu'ils affectionnent en raison de leurs nombreuses vacances passées lorsque les enfants étaient petits sur les places de la Catalogne. Le mode de vie ibérique consistait à nager le matin. Ils s'allongeaient ensuite sur la plage pendant une heure. La nouveauté était notable par rapport aux étés précédents puisque Thibaut restait avec Maud sur le sable. Il lisait un roman policier au lieu de quitter le bord de mer pour aller marcher dans la ville ou rentrer s'allonger sur son lit. Maud trouvait cette proximité bien plus sympathique. Elle écoutait Dostoïevski plutôt qu'elle ne lisait, car elle pouvait ainsi pleinement observer les intéressantes scènes de plage autour d'elle. Ils déjeunaient ensuite, puis se tournaient vers leurs occupations respectives, domestiques pour Thibaut, d'écriture pour Maud. Après les quelques jours d'inquiétude vécus par Maud au début du séjour, elle s'adapta aisément à ce rythme de vie en compagnie de Thibaut. Puis, il rejoignit Paris. Il ne pouvait s'absenter de son travail pendant 6 semaines. Après son départ, elle se sentit fragile, le temps pour elle de trouver un nouvel équilibre. Mars, un trône, des fourmis. Une fois le projet de voyage au Brésil abandonné, Thibaut et Maud décidèrent sans difficulté de leur séjour à Kerbillan. Ils partiraient 6 semaines. Dès le printemps, les garçons avaient passé et réussi leurs examens. Luc entrait en Master 2 de comptabilité contrôle audit et Romain avait son DUT en poche. Il était inscrit dans une école privée pour préparer le diplôme de comptabilité gestion, un examen du niveau de la licence. Maud s'était empressée d'organiser les vacances afin que ses garçons ne restent pas dans leur chambre, afin qu'ils ne soient pas exclusivement cernés par l'ordinateur. Les jeux en réseau, de même que la conception de jeux vidéo qui intéressait désormais Luc, créaient certes du lien, mais aussi un indéniable enfermement physique. Leur mère désirait y mettre un terme, son désir fut exaucé. À Kerbillan, les garçons sortirent chaque jour, ils louaient une planche à voile ou un dériveur, ils nageaient, ils ne se quittaient pas, tels deux inséparables compagnons. Luc et Romain n'ont en cours d'année jamais l'occasion d'arpenter ensemble ne serait-ce que le boulevard de Tessier où est situé l'appartement familial. Ils vivent sous le même toit, mais chacun dans sa chambre. Reliés par ordinateur, ils forment un trio lorsqu'Arthur, depuis le Brésil, se joint à eux. Maud aspirait, pour ses deux fils, à une vie au grand air, près de la nature et loin des écrans. Elle s'était réjouie de les voir lire à Kerbillan. Thibaut avait acheté un roman policier, il l'avait volontiers abandonné à Romain, qui, après l'avoir lu, avait entamé la lecture d'un nouveau volume du Trône de Fer. Il avait aussi découvert la saga des fourmis de Bernard Werber. Maud la lui avait proposé. L'une de ses amies lisait cette fiction animalière aux consonances philosophiques. Elle avait supposé qu'elle pourrait plaire à ses garçons. Romain s'y était plongé. Luc ne s'y était pas intéressé. Il avait vécu, pour sa part, un moment de grande panique. Il avait soudain réalisé, à Paris, quelques heures avant le départ, qu'il serait loin de la capitale, de sa chambre, et par conséquent, privé d'Internet, pendant 6 semaines. Il avait réussi les autres années à survivre dans ces conditions à Kerbihan, mais il avait récemment amplement développé sa pratique de la toile et l'affolement le submergea. Son tempérament, pour le moins décontracté, l'avait empêché d'anticiper leur futur séjour en Bretagne, mais il fut ce soir-là, la veille du départ, rattrapé par l'urgence de la situation. Il lui fallait absolument rester connecté. Il entrevit une voie de salut, non pas par son ordinateur portable, qui, dans leur appartement, ne lui fournirait pas de liaison Internet, mais par son téléphone mobile. Mais encore fallait-il qu'il dispose du meilleur opérateur présent sur le marché. C'est ainsi qu'il ne cessa, la veille du départ, de circonvenir son père. « Je veux changer d'opérateur, » lui répétait-il. « Et comment fait-on pour changer d'opérateur? Le tien est bien meilleur que le mien. On devrait pouvoir les contacter. » Thibault était désolé, mais il était trop tard. Il ne put rien entreprendre. L'ironie du hasard fit que l'opérateur de luxe se trouva être mieux adapté à Internet que celui de Thibault. Maud observait son fils aîné. Elle le trouvait plus dépendant des écrans que son plus jeune frère. Mars, un roman de science-fiction, eut cependant grâce à ses yeux. Il le lut en début de vacances, puis ce fut le tour de Romain qu'il apprécia tout autant. Luc ne s'essaya ensuite qu'aux premières pages de la saga des fourmis. À l'exception de ces deux livres, l'écran de son téléphone fut l'objet de toute son attention. Il se justifiait auprès de sa mère. « Mais non, maman, disait-il, je joue pas, regarde, je lis. » C'était exact. Il lisait des articles sur Internet, se renseignait sur des records dans différents domaines, sur des anecdotes concernant la nature, les sciences, la politique, la géographie. Il passait d'une information à l'autre, il bondissait à cloche-pied, pourrait-on dire, d'un sujet à l'autre. Maud approuvait, elle n'avait pas d'autre choix désormais. Former, canaliser, guider, favoriser une certaine ouverture d'esprit, comme elle aurait façonné une plante, à l'aide de tuteurs et de sécateurs, n'était plus d'actualité. Luc avait passé l'âge. Mais elle craignait les conséquences des jeux informatiques. Elle les trouvait pauvres et sclérosants s'il négligeait le langage et le verbe. Luc devinait les inquiétudes de sa mère. Il lui précisait « Mais non, maman, je joue pas, je suis en train de lire !» dans le but de la rassurer. Il tentait même de l'apaiser. En prenant fréquemment les rênes de la conversation, il lui montrait ainsi que sa fréquentation quotidienne des écrans ne l'empêchait pas de manier le verbe. Chaque soir, par exemple, au cours du dîner préparé et servi par Thibault, Luc animait les discussions. Après le départ de Thibault également, il se pliait aux demandes tacites de Maud en matière de bavardage et autres échanges. En l'absence de leur père, Maud les rejoignait après ses balades en autobus, en début d'après-midi. Romain lisait. Luc se réveillait. Elle leur apportait des sandwichs pour le déjeuner et elle leur parlait. C'était nécessaire. Il lui semblait important, chaque jour, de garder le lien. Elle évoquait les articles qu'elle avait parcourus dans le Parisien ou les personnes qu'elle avait croisées dans les autobus pendant son travail d'écriture. Luc attrapait la balle au bond. Il n'abandonnait pas à sa mère la conduite de la conversation. Il avait 22 ans. Il s'affirmait. « C'est pas vraiment passionnant ce que tu nous racontes là, maman !» exprimait la mousse significative de son visage, ou encore son regard furtivement dirigé vers le plafond, et il changeait de sujet. Il citait des anecdotes drôles ou incroyables qu'il avait glanées par-ci par-là sur Internet. Il faisait plaisir à sa mère. Pour elle, il alimentait le moulin des paroles. Lui plutôt qu'elle. il préférait, et elle aussi beaucoup. Elle n'était pas loin de se sentir alors la plus heureuse des mères.